Bonjour et bienvenue sur FM Plus dans notre magazine Parcours. André Bourguet au micro. Je vous propose un entretien d'expert, si j'ose dire, sur laïcité et tolérance. Franck Belloir, directeur des librairies Jean Calvin, a invité Pascal Bruckner, écrivain, et Hubert Bost, historien, à entrer en dialogue sur cette question. Pascal Bruckner a écrit récemment Un racisme imaginaire, réflexion sur l'islamophobie, et Hubert Bost a consacré un gros livre au philosophe Pierre Bayle de la toute fin du XVIIe siècle. La tolérance est théorisée depuis Bayle et Voltaire, mais la laïcité semble encore mise en cause par un certain terrorisme. Quelle réflexion cela entraîne-t-il? Franck Belloir ouvre le débat en lisant des propos de Bayle puis de Bruckner lui-même dans ce livre. En même temps, il nous présente ses invités et le thème.
Rien de commun avec les royaumes du monde que l'on possède par un droit humain. Et c'est être la peste des royaumes et des républiques que de mêler la religion avec le monde et que de suggérer aux princes qu'il ne faut point souffrir les sujets de contraire religion ou aux sujets qu'il faut éloigner du trône les princes hétérodoxes. Il n'y a point de doctrine plus pernicieuse et aux souverains et aux sujets que celle-là. Cette analyse si moderne, Bayle la développe encore dans son commentaire philosophique de 1686-87 où il écrit « Tout ce qui est fait contre le dictamen de la conscience est un péché. » Cet écho plus abouti de la fameuse phrase de Castiglione « Tuer un homme, ce n'est pas défendre une idée, c'est tuer un homme » nous ramène en pleine époque moderne où le protestantisme est sévèrement réprimé en France par Louis XIV et nous ouvre la voie d'une concordance des temps, car détacher la puissance ecclésiale de l'État ou du prince, lui opposer des bornes strictes, assurer la liberté des cultes en les confinant au domaine privé, telle est la sagesse des sociétés civilisées. Voici, page 245 de son livre « Un racisme imaginaire », une des voies fermement rappelées par Pascal Bruckner pour faire face, en plein XXIe siècle, au déchaînement d'une violence religieuse d'un islam conquérant. Quand le protestantisme réclamait la tolérance à la fin du XVIIe et au XVIIIe siècle, il ne le faisait pas au nom d'un quelconque droit à imposer ses règles à l'État, mais dans la seule volonté de pouvoir croire librement. On pourrait dire la même chose des Juifs au XIXe siècle dans l'Europe orientale et occidentale. Ceux-là ne parlaient même pas de foi quand ils voulaient juste s'assimiler, se fondre, disparaître dans ces États-nations en pleine gestation. Très vite d'ailleurs, les protestants français épouseront cette ligne pour devenir les meilleurs défenseurs de la République et de la laïcité française. Ils feront même le choix de l'école républicaine en 1905. Cette tolérance sœur d'une liberté générale se trouve aujourd'hui revendiquée par un islam violent et conquérant, y compris même d'ailleurs au sein du monde musulman, un islam qui se considère victime d'un racisme quand la seule exigence formulée par la République est l'abandon de toute forme de violence et de coercition dans le respect des lois communes. Une tolérance qui exige l'acceptation même de la violence comme forme d'expression. L'Occident, renvoyé au fondement même de ses idéaux, est pris au piège de cette tolérance retournée, expression que j'emprunte ici à Franck Lestringant dans son beau livre sur les martyrs. Et cette tolérance retournée se joue au nom de cet idéal que devrait accepter, qui devrait accepter la violence et l'oppression. À cette ferveur de brute, il faut opposer une colère intelligente, dites-vous, Pascal Bruckner. Il m'a semblé donc intéressant, important, qu'un dialogue s'ouvre entre vous, Hubert Bost, directeur d'études à l'école pratique des hautes études et spécialiste de Pierre Bayle, alors je prononce à la liégeoise, je crois, un Bayle, dites-vous, qui milite non seulement pour la diversité des confessions chrétiennes, dans un même état, mais aussi pour la reconnaissance des autres religions et le caractère inoffensif même de l'athéisme. Un dialogue, disais-je, entre vous, donc Hubert Bost, et vous, Pascal Bruckner, qu'on ne présente plus, philosophe, essayiste, romancier, hein, le dernier roman de Pascal Bruckner est ici devant vous, hein, Un an, un jour. Un tel dialogue me semblait prometteur de la plus grande sagacité. Je laisse donc d'emblée la parole à Hubert Bost hein, pour nous évoquer pendant une dizaine de minutes Pierre Bayle, et puis après quoi nous entendrons donc Pascal Bruckner hein, reprendre cette position sur la tolérance ou non à partir de son livre Un racisme imaginaire, et puis ensuite hein, nous entreprendrons un dialogue entre les deux intervenants et nous vous laisserons hein, quelques minutes pour réagir, pour débattre aussi avec nos deux intervenants.
Merci Franck. Alors je vais faire ce qu'un historien est censé faire lorsqu'on lui donne la parole. Je vais faire un pas en arrière. Pas un pas de côté, mais par rapport à la situation que nous connaissons, par rapport aux questions de coexistence difficile des religions, je vais retourner en arrière, 3 siècles en arrière, au moment de la cristallisation de la révocation de l'édit de Nantes, qui a suscité chez le philosophe et historien et moraliste Pierre Bayle un certain nombre des réflexions auxquelles Franck Béloir vient de faire allusion. Mais tout d'abord, pour dire que, à mes yeux d'historien, le mot de tolérance ne veut rien dire. Tout simplement parce qu'il peut vouloir dire la chose et son contraire. À l'époque où je fais mon pas en arrière, la tolérance est une faiblesse, la tolérance est quelque chose qui signifie l'impossibilité de changer ce qui devrait l'être et la résignation à ne pas le faire. Donc, premier élément, le mot de tolérance est un mot négatif à la fin du XVIIe siècle, avant qu'il connaisse un renversement à cette fin du XVIIe et au cours du XVIIIe, avec notamment, vous le savez, un traité sur la tolérance signé par Voltaire en 1763, traité dont, si vous l'avez ouvert, vous aurez pu constater qu'il n'est pas un traité et qu'il ne traite pas beaucoup de tolérance. En revanche, l'auteur dont je m'occupe, Pierre Bayle, en 1685, année de la révocation de l'édit de Nantes, et 1686, publie un ouvrage dont le titre est « À rallonge », mais que je vais vous rappeler ou vous indiquer, « Commentaire philosophique sur ces paroles de Jésus-Christ contraint-les d'entrer », c'est une allusion à la parabole de Luc 14 dans laquelle un maître de maison demande à son serviteur de contraindre des invités qui sont par les rues et les chemins à venir à la table du banquet, « Contraint-les d'entrer », où l'on prouve, par plusieurs raisons démonstratives, qu'il n'y a rien de plus abominable que de faire des conversions par la contrainte, et où l'on réfute tous les sophismes des convertisseurs à contrainte et l'apologie que saint Augustin a faite des persécutions. Ce titre n'est pas ce qu'on peut appeler un exemple de concision. Or, lorsque, au XXe siècle, il faut le traduire, il faut le rendre digeste, l'auteur qui s'en est occupé, mon collègue Jean-Michel Gros, l'a traduit de la tolérance, tout simplement. C'est donc bien qu'il s'est opéré quelque chose dans le discours, et ce quelque chose, je voudrais prendre quelques minutes pour vous en parler. Donc, dans ce terrain qui est le mien, celui de ce que j'ai appelé la cristallisation de la révocation de l'édit de Nantes, on passe d'un moment où on avait accepté, depuis l'édit de Nantes, qu'il y ait plusieurs religions dans un même état, ce qui était une forme d'exception mentale, au moment où, sous Louis XIV, on revient à ce qui est considéré comme la situation normale, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une confession religieuse dans un état donné. Le slogan de Louis XIV est « Une foi, une loi, un roi ». Mais C'est précisément dans ce terrain et à cause de la radicalité de la position politique que naît une réflexion sur l'articulation qui existe entre, d'une part, l'État, d'autre part, l'Église et enfin l'individu. Trois pôles qui décrivent par conséquent trois relations possibles, la relation entre l'Église et l'individu, la relation entre l'État et l'individu et la relation entre l'Église et l'État, les trois pôles du triangle avec les trois côtés. Je voudrais prendre quelques instants pour caractériser la manière qu'à cette époque, les hommes ont de considérer cette question et comment, à cette époque, elle évolue. Elle évolue participant à la forme classique de modernité qu'on va appeler par la suite les Lumières. Les Lumières, c'est quelque chose qu'il est facile d'utiliser, comme le mot de tolérance, pour désigner un ensemble dont on ne connaît pas très bien les contenus et dont on se garde bien de dire le périmètre. Dans la position de Bayle, il va, quant à lui, être extrêmement précis. Sur la relation entre la religion et l'individu, c'est-à-dire sur la possibilité qu'il y a ou qu'il y aurait à imposer une confession, une croyance à un individu donné. Il est extrêmement précis et rigoureux. Il dit au fond, on peut toujours obliger une main à signer quelque chose, un acte d'abjuration par exemple, mais on ne pourra jamais obliger une tête à penser et à être convaincue que ce quelque chose est la vérité. Alors, dans notre configuration à nous, nous savons que la manipulation mentale peut aller beaucoup plus loin que ce qu'il croyait. Mais pour lui, en termes de logique, il est assez intéressant de constater qu'il y a une volonté d'une Église d'obliger à faire croire quelque chose à quelqu'un. Ce quelqu'un, il pourra toujours, avec son corps, sa main, consentir, abjurer, admettre, mais il ne pourra jamais être convaincu que ce qu'on lui a obligé de signer est la vérité s'il ne l'est pas vraiment. Au fond, dit Bayle, de ce point de vue-là, si vous voyez qu'une forme est blanche et qu'on vous dit « elle est noire », vous pourrez toujours signer qu'elle est noire, mais vous penserez toujours qu'elle est blanche. Et il en va, bien entendu, de ce point de vue, de la même façon pour le protestantisme et le catholicisme, catholicisme qu'on impose à la révocation léninante, aux protestants qui n'en sont pas convaincus. De là naît toute une réflexion sur la liberté religieuse, sur la liberté de la conscience et sur thème qui est extrêmement audacieux à cette époque-là, qu'il est peut-être moins aujourd'hui à une époque de moindre force des convictions religieuses et probablement aussi de désertion du terrain religieux au profit d'autres types de convictions, c'est ce que Bayle appelle les droits de la conscience errante. Il admet qu'on n'arrivera jamais à mettre d'accord un catholique et un protestant. Vous pouvez prendre toutes les transcriptions actualisantes que vous voulez dans l'actualité politique, par exemple, quand vous ouvrez votre poste pour vous donner des équivalences de cette situation-là. Vous ne mettrez pas les gens d'accord, mais si vous voulez éviter qu'ils s'entretuent, et le spectre des guerres civiles, autrement dit des guerres religieuses, est extrêmement important à cet égard. Si vous voulez éviter qu'ils s'entretuent, vous devez arriver à leur faire comprendre que la vérité de l'un n'est pas partagée par l'autre, que la vérité de l'un amène à penser que l'autre pense et dit faux, mais qu'il a le droit d'avoir une conscience dont on va avoir la conviction qu'elle erre, c'est-à-dire qu'elle est dans l'erreur. Il faut en quelque sorte suspendre la question de la vérité pour éviter de s'entretuer. Et c'est un principe de réciprocité qui est très fort chez Bayle, puisqu'au fond, il admet que lui croit quelque chose, que l'autre en face croit autre chose, mais que s'il y a du sacré à défendre, ce sont ces droits de Dieu qui sont les droits de la conscience qui sont les droits de Dieu même, c'est-à-dire la capacité, le droit que l'on a à croire ce que l'on croit. Il y a ensuite la deuxième configuration sur laquelle j'irai plus vite, c'est le rapport entre la politique et l'individu. Parce que le souverain peut, surtout s'il reçoit des consignes de la part de l'Église, le souverain peut imposer une croyance ou imposer un comportement. Et là, Bayle considère que le souverain, c'est un monarchiste absolu, et il considère que le souverain a le droit d'imposer au corps des sujets, au corps au sens physique des sujets, un certain nombre de choses qui peuvent être injustes. Mais il n'a pas le droit de régenter les âmes, parce que quand il régente les âmes, il s'immisce dans le domaine de Dieu. À travers cette indication que je viens de vous donner du rapport entre l'Église et l'individu et le politique ou le roi et l'individu, je viens de vous indiquer qu'il est en train d'avoir l'intuition de ce que par la suite on appellera la laïcité. C'est-à-dire de la nécessité d'un pouvoir politique qui ne peut s'exercer de manière saine qu'à partir du moment où il n'est pas sous tutelle de la religion, de l'Église, ou inversement, d'un pouvoir religieux qui peut s'exercer sur les esprits des croyants qu'à partir du moment où ils renoncent à les contraindre à croire quelque chose. Il y a donc, et c'est mon troisième point, le rapport entre l'État et l'Église, entre ce qu'on appelle le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, et de ce point de vue-là, Bayle a inventé, a imaginé quelque chose qui est de l'ordre de cette nécessaire séparation des Églises et de l'État, sur laquelle nous nous sommes mis d'accord dans la République française il y a un peu plus d'un siècle, mais qui avait été inventée par des hommes qui allaient beaucoup plus loin que les philosophes des Lumières. Je termine d'un mot en disant que ces positions sur les droits de la conscience errante, sur la liberté de conscience qui est une sorte de sacré pour Bayle, un asile au sens fort du terme, que représente l'esprit humain et donc une forte promotion de l'individu, ces positions l'ont amené à une réflexion sur laquelle on pourra revenir dans le débat si vous voulez, extrêmement intéressante et audacieuse sur le blasphème. Je prends une minute pour vous raconter qu'en 1561, Bayle l'évoque dans son dictionnaire à l'article qu'il consacre au réformateur Théodore de Bèze. En 1561, les croyants catholiques modérés et protestants se réunissent à Poissy, non loin de Paris, pour débattre ensemble des points qui font divergence entre catholiques et protestants. Et à l'occasion de ce colloque, Théodore de Bèze explique la position protestante à propos de l'Eucharistie, à propos du pain et du vin, dans lesquels le protestant ne reconnaît pas la présence physique du corps et du sang du Christ. Et Théodore de Bèze dit: il y a autant de distance entre le corps du Christ et le pain, ou entre le sang et le vin, qu'entre le ciel et la terre. Et à ce moment-là, les prélats catholiques s'écrient, raconte Bayle, blasphémavit, blasphémavit. Il a blasphémé. Or, dit Bayle, et là nous rejoignons exactement la question et de la liberté de conscience et donc de la tolérance de l'expression d'une position différente de la sienne. Or, dit Bayle, si Théodore de Bèze n'avait pas dit cela, il aurait été infidèle à sa propre conviction. Il n'a donc absolument pas blasphémé. Si, en revanche, un cardinal qui croit à la transsubstantiation avait exprimé cette conviction, alors il aurait blasphémé. Et vous voyez à quel point la position, la focalisation sur l'individu est déterminante dans la position de Bayle, qui empêche à quiconque d'imposer à quiconque d'autre une vérité qui ne serait pas la sienne. Je m'arrête là.
Radio FM+, réseau associatif régional émettant sur Montpellier et Nîmes. Dans cet entretien sur tolérance et laïcité, le professeur Hubert Bost vient de remonter aux sources avec le philosophe Pierre Bayle. À l'invitation de Franck Belloir, Pascal Bruckner aborde maintenant le contexte de violence religieuse aujourd'hui.
Hubert, j'aime beaucoup cette expression de Pierre Bayle sur le droit de la conscience errante. Je retiens aussi cette idée qu'il faut suspendre la question de la vérité pour résoudre la violence. Ça nous renvoie à une question d'actualité, puisque je constate quand même aujourd'hui, mais ce ne sera peut-être pas l'objet du débat ce soir, mais que la question de la violence ne se limite pas malheureusement dans notre société, hein, et c'est une vraie question aussi, à la question de la vérité. On voit avec les derniers événements ici à Paris. Je vous laisse tout de suite la parole, Pascal Bruckner, pour évoquer cette question de la violence aujourd'hui dans un espace français qui devrait être un espace républicain et laïque, où on voit une forme de violence, où on a vu une forme de violence se manifester au travers d'actes terroristes fomentés par une religion, au nom d'une religion. Et donc, est-ce que vous pourriez revenir sur cette question-là du rapport de l'islam avec notre laïcité, la française ?
Oui, oui, oui. Peut-être qu'on en parlera pendant le débat, mais je voudrais revenir sur la tolérance proprement dite avant et rappeler la phrase de Claudel, « La tolérance, il y a des maisons pour cela », et qui est une phrase d'un catholique préconciliaire, c'est-à-dire, vous savez, les maisons de tolérance, ce sont les bordels, c'est-à-dire c'est le catholicisme des années 30-40, avant que le Vatican fasse son aggiornamento entre 1962-1965. Et là où on voit que la question religieuse, à la fois, a beaucoup progressé, mais reste problématique, c'est quand on est dans les aéroports et que l'on voit les oratoires. Chaque fois que vous prenez un avion, il y a des oratoires qui sont ouverts en principe à toutes les religions. Et donc il y a une chapelle pour les chrétiens, il y a une mosquée, une synagogue, il y a un temple bouddhiste pour les hindous quand on va plutôt en Asie. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au fond, toutes les religions dans cet espace-là sont mises sur le même plan. Et le fait d'être mises sur le même plan, c'est une certaine manière de les dévaloriser, puisque elles sont dépossédées en quelque sorte de leur titre, du titre qu'elles se revendiquaient à l'origine, c'est-à-dire la possession de la vérité absolue. Alors évidemment, je parle là d'un point de vue français où l'Église catholique a régné pendant des siècles et a imprégné le tissu social et le tissu religieux et a provoqué les guerres de religion dont vous parliez tout à l'heure et qui ont mis l'Europe au bord de l'effondrement. Mais ce qui est intéressant dans ce côte à côte des grandes confessions, c'est que précisément elles deviennent une espèce de, j'allais dire, de self-service, mais chacun peut y trouver dans cet oratoire la foi de son choix sans qu'il soit influencé ou déterminé par d'autres croyants. Et c'est une position évidemment très moderne, très contemporaine, la juxtaposition que l'on ne trouve pas, qu'on ne trouvait pas autrefois, et que l'on ne trouve pas dans un certain nombre de pays, puisque quand vous allez dans certains pays du Moyen-Orient, il y a peu d'églises chrétiennes, ou même pas du tout. Il y a des mosquées à Rome, mais je ne crois pas qu'il y ait d'églises en Arabie Saoudite, tout simplement pour une raison simple, c'est que dans ces pays-là, il n'y a qu'un Dieu, qu'une seule foi, et toutes les autres sont des expressions soit d'hérésie, soit de retard historique. Et par conséquent, même des musulmans très évolués vous expliquent que l'islam est étant la dernière révélation et la seule vérité, la seule religion vraie, et qu'au fond les chrétiens, les juifs devraient reconnaître que s'ils ont participé à cette révélation à travers Moïse, à travers Jésus, ils doivent maintenant admettre également que leur propre religion n'est plus authentique et que donc ils devraient se convertir à la dernière fois venue sur Terre. Et ce qui évidemment pose un certain nombre de problèmes. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au fond, notre conception de la tolérance qui a été ouverte par Voltaire dans son traité sur la tolérance, et le traité sur la tolérance est essentiellement un long narratif sur l'affaire Calas. Voltaire revient sur l'affaire Calas, sur la manière dont cet homme qui appartenait à ce qu'on appelait alors l'Église dite réformée a été torturé, brûlé, broyé dans les pires conditions par l'Église. Et Voltaire a une très bonne phrase dans le traité sur la tolérance où il explique une phrase qui est d'une actualité absolument stupéfiante. Il dit « Que puis-je opposer à un homme qui est persuadé qu'en m'égorgeant, il gagnera son paradis ?» C'est exactement ce que nous avons vécu dans les 4 ou 5 dernières années et ce que nous pouvons encore vivre à titre individuel. C'est qu'effectivement, il n'y a pas d'argument contre le fanatique puisque pour lui, votre mort et sa mort éventuelle ensuite sont un moyen de plaire à Dieu et d'accéder directement aux délices de la... aux délices de l'éternité. Simplement, ce qu'il faut voir, c'est que notre vision de la tolérance en France est une vision de laïcité. Elle est donc motivée par 2 choses. D'abord, la mainmise écrasante de l'Église catholique sur notre société jusque dans les années 60. Alors, c'est vrai que la Révolution française a beaucoup fait pour diminuer l'emprise du catholicisme. Je rappelle quand même que à la violence de l'Église a répondu la contre-violence des révolutionnaires et qu'à la Révolution française, on a guillotiné des dizaines de prêtres, on a violé des nonnes, on a brûlé des églises. Donc on s'est conduit de façon iconoclaste qui choquerait aujourd'hui nos compatriotes puisque nous sommes, nous, au contraire, élevés dans un esprit de tolérance religieuse et idéologique et que nous considérons que les églises sont des monuments qui font partie du patrimoine. Mais les passions, à l'époque, les passions faisaient que tuer un prêtre, violer une religieuse ou pendre un évêque ou le guillotiner, c'était en quelque sorte participer à un mouvement d'émancipation. Et tout le 19e siècle a été un combat très violent entre d'une part les républicains et de l'autre les monarchistes et les catholiques, très souvent unis dans une tentative de restauration et de la royauté et de la mainmise de l'Église sur les consciences, puisque je rappelle que l'Église a pendant des siècles régné dans l'éducation. Et étant moi-même un élève des jésuites, ayant été un élève entre le concile et la fin du concile, on voit bien qu'à l'époque le doute n'effleurait pas les éducateurs, c'est-à-dire que pour eux il n'y avait qu'une seule foi et que toutes les fois concurrentes étaient soit illégitimes soit dangereuses. Mais peut-être faut-il revenir sur justement ce qu'a signifié Vatican II, parce que c'est la première fois qu'un grand monothéisme reconnaît publiquement pas simplement des erreurs d'interprétation mais des crimes. Les papes, dont Jean XXIII et Jean-Paul II, ont admis avoir commis des crimes contre les évangiles à l'égard des protestants, à l'égard des juifs, à l'égard des mahométans, d'avoir trahi l'esprit du christianisme dans leur complicité envers l'esclavage, avoir contrevenu aux édits de la raison en condamnant a priori toutes les découvertes scientifiques. Et ça a été évidemment, à mon sens, quelque chose de fondamental qui a divisé l'Église de Rome, puisqu'il y a aujourd'hui toujours des schismatiques qui pensent qu'on est allé trop loin dans la tolérance, justement, et qu'on a trop concédé soit aux hérétiques, soit aux athées ou soit aux agnostiques. Mais c'est le premier exemple quand même d'une confession qui demande pardon au nom des principes qu'elle a elle-même édictés. Et je crois que la période post-conciliaire a fait croire en France que nous étions entrés définitivement dans une ère de paix religieuse, de paix confessionnelle. Ce qu'évidemment l'irruption de l'islam, et plus encore après la révolution de Roménie en 1979, a complètement bouleversé. Et au fond, on peut très bien comprendre le désarroi d'un croyant à qui l'on explique, c'est la règle de la laïcité à la française, que son Dieu est le seul Dieu concevable sur terre, qu'il a créé le ciel et la terre, mais qu'il n'a pas le droit d'afficher cette conviction publiquement, au point même de contraindre les autres à la partager. Ce qui change avec la loi de 1905, ce qui change après le Concile de Vatican II, et ce qui change avec la déchristianisation de la France, et aussi en général de l'Europe occidentale, c'est l'idée que finalement la foi est un absolu relatif. C'est un absolu parce que dans mon cœur, je suis absolument persuadé qu'il n'est qu'un seul Dieu, c'est celui que je vénère et que j'adore, mais je n'ai pas le droit et la possibilité d'en faire part aux autres. Et là, ça distingue la France, évidemment, d'un pays comme les États-Unis, qui est un pays profondément religieux. 80 à 90% des Américains sont croyants, soit protestants, soit catholiques. Et en Amérique, c'est l'athéisme qui est considéré comme une activité suspicieuse, puisque l'athée, c'est celui qui ne relève d'aucune communauté. Il n'a même pas un culte auquel il se réfère, puisqu'au contraire, sa croyance est purement négative. Il ne croit pas en Dieu, et donc dire que vous êtes athée aux États-Unis, dans les universités ou ailleurs, c'est immédiatement faire porter le soupçon sur vous. Mais on peut comprendre donc le désarroi d'un croyant lorsqu'il se promène dans l'espace public et qu'il rencontre des affiches, des spectacles, des tenues qui contreviennent à sa façon de penser. On peut penser à des tenues largement dénudées l'été. On peut penser à des mœurs qui offensent la plupart des croyants des grands monothéismes, l'homosexualité. On peut penser à des films, à des pièces de théâtre qui, là aussi, blessent les convictions des croyants. Et à ce moment-là, la disposition dont nous pouvons faire état lorsque nous sommes blessés en tant que croyants, eh bien, on peut soit manifester, et on a assisté ces dernières années à de très nombreuses manifestations, notamment de catholiques, non pas radicaux, mais intégristes, qui ont protesté. Je pense à Sens Commun, je pense au mariage pour tous, lorsque le mariage homosexuel a été institué, mais aussi à ces pièces de théâtre qui ont blessé la conviction d'un certain nombre de jeunes catholiques et qui ont manifesté pour demander leur interdiction. Et puis, si ces manifestations ne suffisent pas, eh bien, on peut aller devant un tribunal et estimer que telle affiche de cinéma représentant par exemple, le Christ sur sa croix sont outrageantes et que donc on demande aux tribunaux de trancher. Ce qui a changé, évidemment, avec la violence de Charlie Hebdo et puis ensuite du Bataclan, c'est que là, on a en quelque sorte oublié le recours du tribunal de la médiation judiciaire, puisqu'on est allé directement au crime. Et au fond, on se dit, rétrospectivement, saisir les tribunaux pour porter sur le devant un litige religieux, c'est finalement un acte très civilisé. On est en désaccord, on s'estime bafoué, et donc on demande à un juge de trancher en notre faveur, ou au contraire de laisser le débat ouvert. Mais à partir du moment où on revient à une attitude qui est celle d'une attitude d'ancien régime, on est évidemment dans une dimension où l'idée même de tolérance devient absurde, impensable, d'autant plus que les tueurs, en l'occurrence, vous expliquent que votre offense faite à leurs propres convictions ne relève pas simplement d'un esprit libertaire ou d'un esprit de liberté, mais relève du racisme et du blasphème. Là, on revient au crime de blasphème dont Hubert parlait tout à l'heure. C'est effectivement, il faut savoir que en France, le crime de blasphème a été aboli en 1792 par, je crois, Étienne de Saint-Fargeau, qui était un des ancêtres de Jean d'Ormesson, dont il se réclamait souvent, Jean d'Ormesson, bien sûr. Et Monsieur de Saint-Fargeau explique que le blasphème, qui a tellement coûté à la société de l'Ancien Régime, est un crime imaginaire. Il utilise ce terme parce qu'il dit on tue des gens au nom de personnages dont on ne sait même pas s'ils existent, la Vierge Marie, les saints, les prophètes. Et il dit, nous allons abolir désormais ce crime-là parce qu'il c'est un crime absolument inutile et très coûteux en vie humaine. Et il faut savoir que dans l'Ancien Régime, le crime de blasphème était puni d'abord de quelques châtiments corporels, puis si on récidivait, on vous cousait les lèvres avec du fil, si vous recommenciez, on vous coupait la langue, et puis si vraiment vous persistiez à insulter le nom de Dieu, c'était évidemment la question, et puis le bûcher qui était au final le recours ultime de l'Église dans ces temps troublés où nous ne voudrions pas revenir. Et donc, pour nous, le crime de blasphème paraît effectivement absolument aberrant, barbare, mais ce qui est très inquiétant, on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans la discussion, c'est de voir que tant d'intellectuels en France, dits de gauche, ont justifié en quelque sorte les attentats contre Charlie Hebdo ou les attentats contre le Bataclan ou les cafés du 11e en expliquant qu'effectivement nous avions blessé la sensibilité, les convictions, je pense à un texte de Régis Debray là-dessus, d'un certain nombre de gens qui demandaient à être respectés. Et alors on arrive à cette contradiction qui pour moi pose toutes les limites de la tolérance aujourd'hui. On peut en France en 2018 se moquer du pape. Heureusement, Dieu merci si j'ose dire, on peut se moquer du Dalaï Lama, on a le droit, comme l'a fait Charlie Hebdo de multiples fois, de se moquer de Moïse, on a le droit de se moquer de Jésus, de le représenter sur sa croix, de montrer les papes dans toutes les positions, même les plus obscènes, cette équipe de journal n'a pas manqué de faire. Mais si l'on touche à une religion, c'est-à-dire à l'islam, on est immédiatement un raciste, un fasciste, et donc on encourt les foudres d'une sorte d'inquisition invisible qui s'appelle le terrorisme, car enfin, c'est ça le terrorisme, c'est une inquisition non reconnue par l'État et qui décide en son âme et conscience qu'elle a le droit d'aller égorger ou tuer ou liquider ou menacer telle ou telle personne qui ne pense pas droit. Et donc on touche là vraiment aux limites de la tolérance telle qu'elle peut exister en France. Je terminerai peut-être là-dessus, et c'est là, me semble-t-il, qu'il y a un fossé entre la conception française de la laïcité, qui est fondée sur un certain nombre de principes, mais le premier principe, c'est que l'État n'intervient pas dans l'existence des religions, donc il y a une neutralité de l'État, à condition que les religions n'exercent pas de prosélytisme dans l'espace public, au-delà de ce qu'il est convenable de faire. Et puis la deuxième condition de la laïcité française, elle a été énoncée, à mon avis, avec intelligence par Jean-Pierre Chevènement, c'est ce qu'il appelait la discrétion. La France a une tradition, depuis la loi de 1905, de discrétion religieuse, c'est-à-dire que la rue, l'espace public, ne doit pas servir aux individus pour afficher leurs convictions et pour, en quelque sorte, les imposer à autrui. D'où toute la querelle du voile islamique, la querelle de la burqa, l'opposition qui nous dresse contre le monde anglo-saxon et contre les récentes recommandations de l'ONU, la Commission des droits de l'homme de l'ONU, condamnant la France dans son interdiction de la burqa. Pourquoi ? Parce que les anglo-saxons, eux, estiment, c'est une tradition évidemment qui date probablement de l'Empire britannique, estiment que toutes les expressions de la croyance sont légitimes, et peuvent s'exprimer dans l'espace public. Et c'est pour ça que quand vous allez enseigner aux États-Unis, où je vais assez souvent, vous pouvez avoir dans votre classe des femmes en burqa, qui sont d'ailleurs chaperonnées par des hommes qui sont des frères, des cousins ou un mari qui ne les laisse pas se promener seuls dans l'espace public. Et pour les anglo-saxons, ça, c'est la liberté suprême, c'est même l'expression d'un féminisme absolu. Et nous, Français, nous sommes des barbares qui voulons absolument imposer notre conception de la laïcité. Et donc, très régulièrement, l'ONU condamne la France pour ses pratiques discriminatoires envers les religions. Et donc, c'est là où la tolérance rencontre en quelque sorte une double barrière. À l'intérieur de l'espace national, quand des extrémistes ou des fondamentalistes nous expliquent que nous les persécutons et que donc ils font partie d'une religion qui n'a pas sa place dans la communauté française. Et puis sur le plan international, lorsque les anglo-saxons, là aussi, nous disent que nous sommes en réalité non pas un pays de liberté, mais un pays d'oppression, et que nous devrions d'urgence abolir les deux grandes lois qui ont fait hurler tous les médias américains, à commencer par le New York Times, et qui a permis au New York Times de comparer la France avec l'Arabie Saoudite, comparaison que je trouve pour ma part légèrement excessive, la loi de 2004 sur les signes religieux à l'école et la loi interdisant la burqa. Donc effectivement, la tolérance ne suffit pas. C'est-à-dire, la tolérance n'est admissible que dans le cadre d'une société qui admet un certain nombre de règles communes. Quand une minorité ne reconnaît pas les règles en cours et estime qu'en raison de son histoire ou en raison de ses dogmes, elle n'a pas à se plier aux lois de la laïcité, eh bien là, nous sommes dans une situation problématique et c'est celle où nous nous trouvons aujourd'hui.
Alors, sur cette question du modèle anglo-saxon, les Français craignent souvent un modèle communautariste. Est-ce qu'on peut qualifier ce modèle anglo-saxon justement de modèle communautariste où différentes communautés vivent les unes à côté des autres, se côtoient, mais finalement ne vivent pas vraiment ensemble?
Oui, alors il y a plusieurs multiculturalismes. Hein. Il y a un multiculturalisme anglais, canadien, américain, ça n'est pas le même. Il y a des variantes, évidemment.
Alors, au Canada, je crois qu'ils ont même proposé à un moment d'appliquer la charia.
Oui.
Aux communautés musulmanes.
Oui, dans l'Ontario, et ce sont des femmes musulmanes avocates qui ont protesté très violemment en disant qu'elles étaient venues au Canada pour échapper à la charia et que ça n'était pas pour se retrouver sous cette loi qu'elles considèrent en tant que femmes contraire à leurs intérêts. Mais c'est vrai que le problème de l'Angleterre est intéressant parce que un certain nombre d'hommes politiques anglais ont eux-mêmes protesté contre le communautarisme à la britannique, puisque c'est une juxtaposition de communautés, les Antillais, enfin les gens qui viennent les Caribéens, les musulmans, la plupart venant du Pakistan et du Bangladesh, les juifs, enfin toutes les communautés vivent les unes à côté des autres, mais au détriment parfois de ce qu'on a pu appeler la britannicité. Et celui qui l'a le mieux exprimé, c'est paradoxalement le maire de Londres, Sadiq Khan, qui est lui-même musulman et d'origine pakistanaise, et qui dit « Trop souvent, finalement, les musulmans britanniques vivent à côté de leurs concitoyens en ignorant tout de ce qu'ils font, simplement en partageant une même économie, une même monnaie, un mode de vie à peu près identique, sauf dans l'alimentation et dans les prières. » Et finalement, ce modèle communautaire n'a pas empêché l'Angleterre d'être, elle aussi, l'objet de multiples attentats et d'être toujours soumise donc à une loi antiterroriste assez forte. Aux États-Unis, le multiculturalisme vient du projet même de l'Amérique. C'est-à-dire l'Amérique, c'est présenté au monde comme étant la terre d'accueil de tous les persécutés. Et on sait que les premières communautés qui sont venues aux États-Unis, ce sont des protestants persécutés par les églises en place, c'est-à-dire toutes les minorités anabaptistes, les mennonites, tout ce que les luthériens ou les puritains ou les calvinistes ne toléraient pas, qui sont venus aux États-Unis et qui ont trouvé donc un espace de prospérité et d'opportunité. Simplement, la grande différence, me semble-t-il, entre les États-Unis et l'Europe, c'est qu'aux États-Unis, ce multiculturalisme et ces communautarismes qui sont là-bas exacerbés, notamment par la question noire, sont transcendés en quelque sorte par le patriotisme. C'est-à-dire que, quelle que soit votre origine, si vous êtes un Chinois aux États-Unis, confucianiste, vous êtes aussi d'abord et avant tout américain. Et donc, ça doit vouloir dire que vous êtes prêt à donner votre vie pour la nation américaine qui vous a offert en quelque sorte la chance de votre existence. Et c'est le patriotisme aux États-Unis qui transcende en quelque sorte les innombrables divisions communautaires. Et ce qui fait que les villes américaines sont tout à fait stupéfiantes sur ce plan-là. Quel que soit le bourg ou la grande ville où vous entrez, dans les rues, vous voyez côte à côte 10, 20, 30 églises. Alors il y a toutes les dénominations protestantes, mais il y a aussi les temples hindous, les temples sikhs, les chiites, les sunnites, donc les catholiques bien sûr. Donc toutes les confessions sont représentées, vivent les unes à côté des autres. Et d'ailleurs il arrive que les citoyens américains parfois j'allais dire cotisent à l'une et à l'autre, et donc fassent un peu leur marché dans les foies, en se disant on est d'abord un jour on est presbytérien, le lendemain on va chez les baptistes parce qu'il y a plus de commodité, parce qu'il y a plus d'avantages ou plus de liens qui se créent là. Mais c'est aussi autre chose qui est très différente entre les États-Unis et la France. Je vais enseigner tous les deux ans au Texas, c'est que les églises, même les méga church comme ils disent, ne sont pas simplement des endroits où on se rend le dimanche. C'est des lieux de vie, c'est-à-dire c'est là où une communauté donnée retrouve sa propre expression, le miroir de ses intérêts, de ses soucis. Et pour un Français qui a été élevé dans le culte catholique, il est tout à fait stupéfiant de voir que les cultes ou les messes peuvent durer très longtemps parce qu'elles sont entrecoupées d'annonces, de publicités, de témoignages, par exemple, d'anciens alcooliques qui viennent vous expliquer comment Jésus les a sauvés du vice. Et donc ça peut durer très longtemps, les gens chantent, mais aussi sont traversés, alors ça évidemment c'est impensable dans une église, traversés d'annonces publicitaires. Et vous avez des pasteurs, des révérends comme on dit, qui vous vendent des prières pour la route. Vous n'avez pas le temps d'aller à l'église parce que vous devez aller faire un voyage, c'est prayers to go, donc vous achetez une prière pour 20-30 $. Et vous l'emportez avec eux. Donc il y a ce mélange très frappant de business, de dialogue, de pansement des blessures collectives ou individuelles et de culte qui évidemment n'a pas grand-chose à voir avec l'exercice de la religion en France, même si vous avez pu remarquer que maintenant dans les enterrements et les mariages, sur le modèle protestant justement, les gens se serrent la main, s'embrassent, ce qui n'existait pas du tout quand j'étais plus jeune. Alors il est vrai que je ne fréquente pas beaucoup les églises aujourd'hui, donc je suis un peu ignorant, mais je m'aperçois que aux États-Unis la foi c'est un tout petit peu plus que le simple exercice d'une conviction. C'est un mode de vie. Vous vous devez à votre communauté qui, en retour, vous offre un certain nombre de soutien, d'appui, de bienfaits, y compris les groupes de parole pour sortir de l'alcoolisme, de la drogue, de la dépendance, quelle qu'elle soit, le soutien aux gens divorcés, aux filles mères. Et donc la religion englobe beaucoup plus finalement que le simple exercice d'un culte. C'est un mode d'existence global. Donc, effectivement, en France, nous n'avons pas cela. Nous ne vivons pas sur ce modèle, même si les églises tentent d'incorporer ou d'absorber, là aussi, un certain nombre de préoccupations quotidiennes.
des OFM+, studio de Montpellier, Pascal Bruckner vient de poser le problème de la laïcité et de la tolérance devant la violence. Nous pouvons retenir maintenant un des éléments du débat qui a suivi cette réflexion à trois voix.
Pour terminer peut-être et élargir un peu la question de la tolérance au-delà de la question du terrorisme musulman, vous évoquiez tout à l'heure cette faiblesse congénitale des démocraties, hein, qui est contrainte en quelque sorte de tolérer ce qui est intolérable, avec ces violences des gilets jaunes et ainsi de suite, pour élargir la question, hein, sur la violence en général. Est-ce qu'il n'y a pas une loi supérieure qui pourrait s'imposer aux démocraties, à savoir la sauvegarde de son propre intérêt, du bien-être collectif et de sa propre protection, hein, pour réagir face à cette violence et finalement, à un moment ou à un autre, dire non, voilà, ça n'est plus tolérable. Alors bien sûr, dans le discours, on l'entend, mais on a quand même assisté à des dégradations sur l'Arc de Triomphe, des dégradations qui vont coûter des millions d'euros, voire des milliards d'euros à la nation, avec l'impact économique que ça engendre. Est-ce qu'il n'y a pas une loi supérieure que les démocraties pourraient invoquer, hein, pour faire face à cette violence qui ne s'est pas développée que sur l'Arc de Triomphe. Hein. Il y a aussi la violence dans les banlieues. On se rappelle à l'époque de Sarkozy. Hein, il a fallu quand même l'état d'urgence pour endiguer tout ça. Est-ce que les démocraties ne pourraient pas réagir plus vite au nom d'une loi supérieure?
Voilà, ça, c'est un vaste débat. Ce qu'il y a, c'est que...
Ouais, c'est pas le bon moment, alors.
Si, c'est le bon moment, mais je pense que nos sociétés font l'objet, depuis leurs origines, d'une contestation permanente, soit par la droite, soit par la gauche, l'extrême droite et l'extrême gauche, qui ne cessent de souligner l'illégitimité de nos régimes. Donc l'extrême droite, dans ses différentes versions, veut rétablir un passé imaginaire qu'elle idéalise en expliquant que, depuis que la Révolution française a lieu, nous ne vivons que dans le chaos et dans l'anarchie, et que donc la République est une gueuse, hein, pour employer une expression des années 30, est une gueuse qui ne mérite pas de vivre. On a vu que récemment, il y avait un certain nombre de membres de l'Action française, de l'ancienne Action française, qui étaient dans les manifestations. Et puis l'extrême-gauche explique, elle, que la démocratie est une farce électorale, qui ne représente rien, qu'elle est au service d'une oligarchie très riche qui exploite le peuple, et ce double discours, et que par conséquent, renverser la démocratie représentative ou parlementaire au profit d'une démocratie directe, qui serait exercée par un parti qui se veut l'émanation du peuple, serait la seule solution. Et le débat qu'on a aujourd'hui, je regardais avant de venir, le débat à l'Assemblée avec Édouard Philippe, les interventions de Marine Le Pen et de Mélenchon, c'est exactement cela. C'est-à-dire que ça, au fond, ça n'a pas beaucoup changé. Donc la démocratie est constamment accusée d'être une usurpation de pouvoir exercée au nom du peuple contre le peuple. Et donc vous avez eu un certain nombre d'intellectuels et de dirigeants qui ont expliqué que ce qui s'était passé le 1er et le 8 décembre était parfaitement légitime, parce que des gens opprimés, exploités, ne pouvaient plus supporter la vue d'un hôtel particulier, que l'Arc de Triomphe ne représente rien pour un certain nombre de groupes d'anarchistes, de black bloc, de zadistes, de néofascistes qui pensent que c'est une symbolique qui ne sert qu'à justifier les grandes aventures impérialistes de la France. Donc quand on a un désaccord fondamental sur le consensus national, effectivement, il est difficile d'invoquer autre chose que l'état d'urgence. Et ce qu'il faut bien remarquer, puisqu'on est en pleine crise là et qu'on peut le dire, ce qui a sauvé la République le samedi 1er décembre, c'est 3000 forces de police qui ont peiné, qui ont souffert. Et samedi, ils étaient 8000. Et c'est une meilleure coordination de la BAC, de la BRI, des CRS, de la gendarmerie qui a permis de contenir des manifestants qui voulaient en découdre. Alors évidemment, ils ne sont pas tous les mêmes, ce ne sont pas tous des tueurs, loin de là. Ce sont d'abord des pillards,
Mais qu'est-ce que c'est que le pillard ? C'est un consommateur pressé. C'est un consommateur qui, entre l'objet convoité et la prise, ne veut pas passer par la caisse. Hein. Il y a eu une vidéo hallucinante de jeune qui attaquait une bijouterie. Il disait « Frère, regarde, c'est une vraie Rolex, je la veux. Non, elle est à moi. » Voilà. Donc, ça n'est pas du tout la même chose. Il n'empêche qu'à un certain moment, oui, il y a un élément qui s'appelle l'ordre républicain qui doit être respecté. Et donc, l'autorité de l'État, l'autorité des intermédiaires, l'autorité des hommes politiques, des partis, des syndicats, doit freiner les élans éradicateurs d'une foule qui est devenue folle. Parce que quand même, on a entendu depuis 15 jours des choses un tout petit peu inquiétantes. Quand François Ruffin explique devant l'Élysée que Macron va mourir comme Kennedy d'une balle dans la tête, ça s'appelle un appel au meurtre. Je pense que ça doit être sanctionné par la justice. On n'est plus du tout dans les luttes religieuses. Là, on est vraiment dans des luttes qui ressemblent beaucoup aux jacqueries de l'ancien régime. Et d'ailleurs, on a quand même fait un progrès considérable dans la tolérance, parce que j'écoutais hier, je faisais un jogging, j'écoutais une émission sur Radio Classique sur justement l'origine du mot jacquerie, hein, les révoltes de Jacques Bonhomme sous l'ancien régime. Mais quand les paysans, les manants, les serfs se révoltaient contre un impôt et allaient brûler les seigneurs dans leur château, la réponse des troupes, des arquebusiers, ça n'était pas un jugement. Si on leur coupait les jambes, on les pendait. Et on peut dire qu'il y a eu quand même un très grand progrès dans l'histoire et qu'aujourd'hui, c'est un miracle qu'il n'y ait pas eu de mort dans ces manifestations. Et ça, on le doit quand même à la discipline quasi-militaire que les policiers ont exercée, même si certains manifestants ont tenté de lyncher des policiers, dont un qui a été sauvé par des gilets jaunes, hein, contre d'autres gilets jaunes. Alors donc, votre question, c'était qu'est-ce que doit faire le...
Ben, à un certain moment, est-ce qu'il n'y a pas une loi supérieure ?
Oui, la loi supérieure, c'est notre intérêt à chacun d'entre nous. Notre intérêt en tant que citoyen, c'est que ça ne dégénère pas en chaos généralisé.
La loi, je serai très bref, je consonne tout à fait avec ce qui vient d'être dit. La question de la loi supérieure est une question raisonnable. Or, on est devant une situation qui est déraisonnable. Et on peut se dire que la situation française est à la limite moins grave que la situation mondiale. Et le monde s'était donné une loi supérieure qui s'est appelée successivement la Société des Nations, qui s'est appelée ensuite l'ONU, et qui, au milieu, on en fête le 70e anniversaire hier, s'est doté de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ces éléments-là sont effectivement de nature à offrir une réponse raisonnable à toutes celles et à tous ceux qui sont d'accord pour accéder à la raison. Mais ce que nous a montré le XXe siècle, à travers ses savants, je pense à Freud, et à travers ses horreurs, je pense évidemment à tous les totalitarismes, c'est que les forces de la passion, les forces de la colère et les forces de la violence sont infiniment plus difficiles à juguler et que la raison ne suffit pas à le faire. Pardon pour cette conclusion plutôt pessimiste, mais c'est la mienne.
Radio FM+, antenne de Montpellier, à l'initiative des librairies Jean Calvin et de Franck Belloir, nous venons de suivre un entretien avec Hubert Bost, historien, et l'écrivain Pascal Bruckner sur le problème posé aujourd'hui à la laïcité, notamment en France. C'est un peu la question des limites de la tolérance devant la violence, ce qui pose aussi le problème d'une autorité morale supérieure. Au revoir et à bientôt sur FM+, dans un prochain parcours.